Podcast by Tendance Ouest. Fait de vie, Philippe Bertin.
Bonjour. En septembre 2022, au moment où je vous parle, cela fera donc très exactement 10 ans qu'on a refermé officiellement l'instruction menée sur l'affaire du docteur Godard, disparu en mer avec sa famille en 1999. Le juge d'instruction en charge de ce dossier épineux et mystérieux a donc en septembre 2012 prononcé un non-lieu mettant un terme à cette histoire vieille de plus de 20 ans et dans laquelle le médecin cannais Yves Godard était recherché pour homicide volontaire. Qu'en restera-t-il et qu'avons-nous appris au cours de toutes ces années? Le procureur de la République d'alors, qui ne disposait pas, comme on dit au terme de l'instruction, de charges et d'informations suffisantes, avait indiqué solennellement au moment de refermer le dossier, j'ouvre les guillemets, « Même si c'est la piste la plus probable, on ne peut affirmer formellement qu'Yves Godard est l'auteur de l'homicide, fermez les guillemets. Ainsi, c'est terminé, une affaire qui reste à ce jour non élucidée. Comment et pourquoi une famille tout entière, le père, la mère et leurs deux enfants, ont-ils pu disparaître ainsi? Que cache au fond de la mer de la Manche cette étrange disparition familiale en forme de suicide collectif ou de naufrage involontaire? On a eu beau chercher durant toutes ces années. De très nombreuses pistes ont été empruntées, ouvertes, comme disent les policiers, avant de les refermer. Aucune n'a pu mener à la résolution finale et véritable de cette énigme. L'affaire Godard est à ce jour et depuis ce mois de septembre 1999, date à laquelle débute cette étrange histoire, l'une des affaires criminelles parmi les plus retentissantes de ces 50 dernières années. Il n'y a guère que l'affaire Dupont de Ligonnès qui puisse un peu, si j'ose dire, rivaliser dans l'échelle de l'horreur, du tragique et de l'inimaginable. Je vous propose donc, 10 ans après la clôture de ce dossier criminel, de revenir en détail et en 2 épisodes sur le déroulé de cette incroyable histoire. Nous sommes le 1er septembre 1999. C'est un mercredi et il fait très beau. Ce jour-là, en tout début de matinée, une habitante de Tilly-sur-Seule, nous sommes à une 20aine de kilomètres de Caen, dans la région du Bessin, non loin de Bayeux, aperçoit le docteur Godard au volant de sa camionnette. Il pilote un combi Volkswagen blanc. À son bord, elle croit apercevoir les deux enfants du médecin, Camille et Marius. Ils sont respectivement âgés de 6 et 4 ans. Le témoignage de cette voisine des Godard est important. Mais il ne dit pas si ce matin-là, Yves Godard, au volant de son petit camion qui sort de chez lui, une petite maison sur les bords de la Seule, est accompagné ou pas de son épouse Marie-France. Cette énigme est la première de toute une série, et c'est même l'une des clés de cette histoire. Nous y reviendrons plus loin, on n'a en effet, à ce jour, et plus de 20 ans après les faits, jamais retrouvé le corps de Marie-France Godard. Dans quelles conditions a-t-elle pu disparaître et pourquoi? Si on le savait, une partie de ce dossier serait vraisemblablement résolue, mais voilà, il ne l'est pas, et l'on peut raisonnablement penser, sauf coup de théâtre extraordinaire, qu'il reste à jamais sans réponse et sans explication. Je vous parlais de cette voisine, elle s'appelle Bernadette, qui, au premier jour de septembre 1999, voit donc partir les Godard, le père et ses deux enfants. Elle sera à Tilly-sur-Seule la seule et dernière personne à avoir vu les Godard vivants. Jamais plus on les reverra à Tilly. Jamais plus Yves Godard, 44 ans, Marius, 4 ans, Camille, 6 ans, et Marie-France, 45 ans, ne seront aperçus vivants de leurs voisins. Encore aujourd'hui, Pierre, l'un de ses voisins précisément, retraité de la SNCF et que j'ai pu rencontrer pour les besoins de cet épisode, n'arrive pas à expliquer le pourquoi du comment. Il ne se résout pas à l'idée que la famille ait pu tout entière disparaître et qu'Yves Godard puisse avoir été celui par qui le malheur a pu arriver. Il me raconte qu'il lui arrivait assez souvent de jouer à la pétanque le dimanche après-midi avec les enfants du couple Godard sur les bords de la rivière qui sépare sa maison de celle du docteur près de l'ancien pont médiéval du Tilly-sur-Seule. Il me dit que le docteur Godard était quelqu'un de bien, de très aimant avec ses enfants, qu'il n'avait évidemment pas à ses yeux l'image d'une personne qui aurait pu faire du mal aux autres, à commencer par en faire aux siens. Sa femme Liliane, elle aussi retraitée, est du même avis. Elle ne croit pas qu'Yves Godard ait pu attenter à la vie de sa famille. « C'est impossible, me dit Liliane. » Elle ajoute, j'ouvre les guillemets, « c'était une famille unie et très aimante. » Fermez les guillemets. À Tilly-sur-Seule, les nouveaux propriétaires de la maison qu'occupaient autrefois le docteur et sa famille m'ouvrent chaleureusement leurs portes. Ils me font visiter l'intérieur de cette maison qu'ils ont restaurée et rénovée avec soin. Il y a devant chez eux un joli parterre de rosiers. Les propriétaires ont planté également un olivier. On distingue aussi tout à côté un très joli saule pleureur dont les branches vont jusqu'à toucher les rives de la Seule. La rivière à cet endroit déborde souvent, c'est une sorte de cuvette. À l'arrière de la maison, le gazon est parfaitement entretenu.
Podcast by Tendance Ouest.
En entrant, je vois par où tout a commencé. Dans ce petit escalier qui, depuis le salon salle à manger de la maison, mène aux chambres du premier étage. C'est en effet là, apparemment, que l'histoire des Godard a pris à la fin du mois d'août et au premier jour de septembre 99 une très mauvaise tournure. C'est du moins ce qu'on peut en déduire. En effet, quelques jours après la disparition signalée du docteur, des traces de sang ont été retrouvées à l'endroit où je me trouve, le long du mur du petit escalier. Les gendarmes venus sur place le 9 septembre, accompagnés du maire de Tilly-sur-Seule, découvriront dans la chambre à coucher du couple une grosse tache de sang qui a imprégné le matelas du lit sur plusieurs centimètres. Un des gendarmes présents sur place découpera au cutter la partie souillée du matelas. Il aura d'ailleurs cette réflexion, j'ouvre les guillemets, « Il y a quelqu'un ici qui a perdu beaucoup de sang. » Fermez les guillemets. Cette trace provient en fait du sang de Marie-France Godard. On en retrouvera aussi dans l'habitacle du combi Volkswagen du docteur. Toujours, toujours le sang de Marie-France Godard. Elle est la seconde épouse du docteur qui s'est remariée avec elle après une première union. Tous deux ont eu d'ailleurs chacun deux enfants de leur union précédente. Marie-France Godard travaille au cabinet de son mari. C'est elle qui gère son agenda, prend les rendez-vous et accueille les patients lorsqu'ils arrivent en salle d'attente. Je reviens au déroulé de cette histoire qui ne fait que commencer. Nous sommes donc le matin du 1er septembre et Yves Godard, comme je le disais, prend la route, quitte Tilly-sur-Seule, direction Saint-Malo et plus précisément Saint-Servant sur le port des Sablons au pied de la tour Solidor. C'est là qu'il a réservé quelque temps avant la location d'un voilier de 9 mètres, un type Sun Odyssey, c'est de fabrication Jeannot. Le bateau porte le nom de Nick. Le docteur Godard l'a loué pour quelques jours. Il doit aller faire des ronds dans l'eau autour de Saint-Servant. Le temps s'y prête en cette période de l'année, c'est encore l'été indien, le ciel est bleu, il y a une légère brise, un temps idéal pour les voileux, et Yves Godard l'est voileux. Il sait naviguer, plus jeune il s'est initié à la plaisance avec son père le long des côtes bretonnes, pas loin de Saint-Brieuc, et c'est précisément par là qu'il a visiblement l'intention de s'en aller faire un tour. C'est du moins ce qu'il aurait laissé entendre à la capitainerie du port des Sablons. Il a fait des provisions avant de partir, acheté aussi quelques jouets et puis des produits détergents. Mais pour quel usage ces produits détergents ? Est-ce pour nettoyer le bateau ou pour remettre au propre l'intérieur de sa camionnette où l'on retrouvera des traces de sang ? C'est l'une des questions que se poseront le moment venu les enquêteurs. C'est au large de la côte d'Émeraude, entre Saint-Malo et Saint-Brieuc, que des douaniers maritimes le croisent et contrôlent son bateau. Ils seront d'ailleurs parmi les derniers à voir le docteur Godard. Nous sommes le 2 septembre. L'affaire ne fait que commencer et elle va prendre une tournure incompréhensible. Lors de leur contrôle, les douaniers le diront plus tard, ils croient apercevoir à bord un des deux enfants qui semble endormi. Il ne voit personne d'autre, et donc pas Madame Godard, et le docteur, lui, semble apparemment, c'est ce que diront les douaniers, assez stressé. Quand on connaît la suite de l'histoire, on peut comprendre pourquoi. Autre surprise des douaniers, le bateau navigue au moteur, alors que le temps se prête admirablement à la pratique de la voile, et ce fait avec le recul paraîtra en effet étonnant, puisque le médecin est un voileux et qu'il aurait dû, ou qu'il aurait pu, tout à fait bien hisser les voiles pour cette promenade en mer. Autre remarque des douaniers, et elle aura son importance après. Ils observent à bord du bateau de location une housse de planche à voile. Maître Jean de Mézrac, l'avocat de la famille de Marie-France Godard, dont on n'a pas, je vous le disais, retrouvé le corps 20 ans après le début de l'affaire, s'interrogera. Et si la housse de planche à voile avait permis d'y faire glisser et d'y dissimuler le corps de l'épouse du médecin dont on a retrouvé des traces de sang à la fois dans la maison de Tilly et à l'intérieur du combi Volkswagen. Cette question reste à ce jour sans réponse. Les jours passent et arrive le moment où le voilier barré par le docteur doit revenir à son port d'attache, le port des Sablons à Saint-Servan. Il est censé y revenir le dimanche 5 septembre au terme de la location. Sauf qu'il ne revient pas et que le loueur commence sérieusement à s'en inquiéter. C'est d'autant plus étrange qu'aucun naufrage ni accident n'ont été signalés dans les environs. C'est d'autant plus étrange que la météo, je vous l'ai dit, est clémente et que rien ne peut laisser présager une absence comme celle-là. À moins que le bateau ait été victime d'une avarie et qu'il se trouve scotché sur l'eau quelque part entre Saint-Malo et la pointe nord du Finistère, voire même au large des îles anglo-normandes. Après tout, Jersey et Guernesey ne sont pas si loin. Il n'y a aucune explication rationnelle à cette disparition. Est-elle volontaire ou pas ? À ce stade, on n'en sait rien. Une chose est sûre, les heures passent et le loueur du voilier commence à se poser des questions. Il alerte les autorités du port, qui alertent les gendarmes. L'histoire ne fait que commencer et les enquêteurs ne s'en doutent pas encore. Ils vont aller de surprise en surprise et mettre à jour une histoire dont on peine encore, plus de 20 ans après, à dénouer les fils tellement elle est abracadabrantesque. C'est une histoire de fou ! On va s'apercevoir bientôt qu'elle sera aussi une histoire de gros sous.
Podcast by Tendance Ouest.
Nous sommes donc le 5 septembre 1999 et le voilier, à bord duquel a pris place Yves Godard et sa famille, est porté disparu. À ce stade, il n'y a pas d'autres informations à retenir. Un voilier disparaît, à son bord une famille en vacances pour quelques jours de croisière, et voilà ce qu'on a à se mettre sous la dent. La nouvelle fait tout de même jaser. Elle est publiée dans les journaux, sur place, à Tilly-sur-Seule, au comptoir du bar-tabac qui fait face à la salle des fêtes communales, tout près du stade de foot et de l'ancien château de Tilly, en plein cœur du bourg. On commence à parler de cette histoire qui alimente bientôt toutes les conversations. Pensez donc, un médecin qui disparaît, avec lui sa famille, ça a de quoi interpeller et intriguer. Les enfants du docteur, d'ailleurs, ne sont pas ici des inconnus. Tous les deux, Camille et Marius, sont scolarisés dans la commune à l'école du Sacré-Cœur. Que sait-on de ce docteur qui vit à Tilly mais n'y travaille pas ? Ses plus proches voisins le décrivent, je l'ai déjà dit, comme une personne aimable, proche de ses enfants, un voisin discret qui ne fait pas parler de lui. À Caen, c'est tout autre chose. Le médecin qui exerce dans le quartier de la gare, boulevard Lyautey, c'est pas très loin du centre-ville, est réputé pour être un original, hein, un médecin qui ne fait pas les choses comme tout le monde. Spécialiste d'acupuncture, il est un militant en effet de médecine douce, voire très parallèle. On ne dit-on pas qu'il se fait aider de temps en temps d'une voyante pour soigner ses patients. Le praticien a eu maille à partir, d'ailleurs avec l'ordre des médecins, pour avoir un temps prescrit les fameux médicaments Beljanski censés aider à la guérison du cancer. Or, ces médicaments sont interdits de vente et d'usage. Et pour cette infraction, le médecin Canet sera d'ailleurs condamné à devoir stopper ses activités pendant plusieurs mois. Son cabinet a pourtant ses fidèles et ils sont nombreux. Certes, leur médecin est original, mais c'est aussi ce qu'on aime chez lui. Et pour la plupart, ceux qui le connaissent et le fréquentent à titre professionnel comme sur le plan amical, ils n'en disent que du bien. Il y a une autre facette, cependant, que peu connaissent quand ils viennent le consulter pour un bobo, une grippe ou une maladie un peu plus sérieuse. C'est que le médecin, un peu marginal sur les bords quand il s'agit de thérapie, l'est aussi pour ses comptes. Il milite en effet à la CDCA, c'est la Confédération de défense des commerçants et artisans, un mouvement jugé extrémiste et dont le mot d'ordre est de faire, pour résumer, la nique aux impôts et autres réglementations fiscales. Ce mouvement veut mettre fin au monopole de la sécurité sociale. Yves Godard est l'un de ses adhérents. Il est même responsable régional du mouvement en Normandie. Il refuse de payer ses cotisations à l'État et met cet argent de côté dans une caisse privée que gère précisément la CDCA. Il n'est pas le seul dans ce cas-là, à cette époque. J'ai rencontré d'ailleurs un artisan canet, professionnel de santé, qui agissait de la même façon. Et tout comme Yves Godard, il participait de temps en temps à des manifestations de rue qu'organisaient les responsables du syndicat pour défendre le petit commerçant et le modeste artisan et faire valoir leur combat qu'ils estimaient juste et légitime. Ce professionnel de santé, au contraire du docteur Godard, n'est pas resté longtemps adhérent du mouvement. Il m'a dit qu'il avait préféré s'en retirer, craignant que les choses tournent mal à la fin. Et c'est exactement ce qui s'est passé et ce qu'a connu le médecin, poursuivi par le fisc et les huissiers au point d'organiser lui-même son insolvabilité pour ne pas avoir à répondre de ses obligations fiscales. On le saura plus tard, mais à l'époque, le docteur Godard, qui gagne correctement sa vie, ne possède en réalité rien du tout. Tout ce qu'il est censé avoir est au nom notamment de ses enfants. Une pirouette qui va se transformer au final en cauchemar. L'argent qu'il aurait dû verser à l'État au titre de ses obligations sociales est mis sur un compte privé que gère la CDCA. Et ce compte est niché dans un paradis fiscal. Ce sera le début de la fin. Le début de la fin pour le docteur, et c'est peut-être, sans doute, et même sûrement, ce qui va causer sa perte et celle de sa famille. C'est du moins ce que prétendent certains. Éric Lemasson, journaliste et réalisateur de documentaires, a écrit sur le sujet un excellent livre, fruit d'une enquête très fouillée dans laquelle il avance la thèse d'un assassinat. Le docteur Godard, oui, vous avez bien entendu, aurait été assassiné alors qu'il cherchait à récupérer son argent dans les îles anglo-normandes et autres paradis fiscaux, notamment sur l'île de Man et sur l'île Lewis, où l'on retrouvera d'ailleurs sa trace. Cette thèse d'un assassinat sur fond de règlement de comptes mafieux, en gros un contrat sur la tête d'Yves Godard, est battue en brèche par la famille de Marie-France Godard. L'avocat de la famille, Jean de Mézrach, ne veut pas y croire, qualifie lui-même cette thèse de fantaisiste. J'ai échangé avec Éric Lemasson. Il avance de nombreux arguments qui tiennent la route et sont particulièrement troublants. Un élément parmi de nombreux autres. Est-ce ou non une simple coïncidence? On est en effet en droit de s'interroger. Christian Pousset, le président de la CDCA, mouvement syndical dont je vous ai dit qu'il était plutôt sulfureux et auquel appartenait le médecin Canet, trouvera lui, peu de temps après la disparition du docteur Godard, la mort dans des circonstances qui restent à ce jour inexpliquées. Il a été assassiné fin janvier 2001, soit quelques mois après la disparition du médecin. Lui a été assassiné dans son bureau par deux hommes cagoulés munis d'armes de poing qui ont commis cet acte et qui n'ont jamais été retrouvés depuis. Autre fait troublant. Quelques mois avant, Philippe Varnier, le vice-président du mouvement syndical, a lui aussi trouvé la mort. Il a été victime du crash d'un petit avion dans lequel il avait pris place. Cet accident a prêté à interrogation. On avait, paraît-il, oublié de faire le plein de kérosène dans le réservoir de l'appareil, ou en tout cas la jauge indiquant le niveau de kérosène semblait connaître des ratés. Bizarre. Comme c'est bizarre, vous avez dit bizarre. En menant l'enquête sur la disparition du docteur Godard, j'ai été approché par d'anciens membres normands de la CDCA. Eux aussi sont persuadés que Godard a été victime d'un règlement de compte. Et non seulement ils en sont persuadés, mais m'ont même désigné ceux qui auraient été les commanditaires du crime et qui auraient eux-mêmes agi pour éliminer le médecin et sa famille. Ce serait un couple qui vit actuellement au Brésil. Question qu'on peut se poser, pourquoi ce médecin normand aurait-il fait ainsi l'objet d'un assassinat en règle ? C'est assez simple, me répondent mes interlocuteurs. Il avait découvert le poteau rose. Son argent, soi-disant placé dans des paradis fiscaux, aurait été dilapidé et le médecin Bernet s'apprêtait à tout dévoiler. Les commanditaires du crime évoqués par certains ne lui auraient pas laissé le temps de mettre au grand jour ce système mafieux dont il aurait été lui-même la victime. On aurait alors inventé un scénario laissant à penser que le médecin, perclus de dettes et poursuivi par le fisc, aurait préféré en finir en portant avec lui sa famille, sa femme, ses enfants et surtout son secret. C'est une thèse à laquelle, encore une fois, n'adhère pas la famille de Marie-France Godard, représentée par l'avocat Canet Jean de Mézrach. L'histoire est donc particulièrement rocambolesque et son déroulé en est la parfaite illustration. Nous avons quitté le docteur Godard au départ de Saint-Malo le 1er septembre 1999. Je vous propose donc, dans un second épisode, de revenir en détail sur les jours, les semaines qui ont rythmé le scénario de cette disparition en forme d'énigme riche de multiples et incroyables rebondissements. À bientôt donc pour ce second épisode de l'affaire et du mystère du docteur Godard.
Podcast by Tendance Ouest.